Bonsoir à toutes et à tous. Difficile d'y échapper. Allumer son poste de radio, lancer une vidéo sur YouTube ou ouvrir son compte Twitter ou Facebook expose nécessairement à un flux ininterrompu des scandales et au cortège d'indignation bruyante qu'il charrie. Hier soir, j'ai eu l'occasion de faire une liste non exhaustive des différents sujets qui ont animé les réseaux sociaux, en tout cas mes réseaux sociaux, lors de cette soirée. Le premier était que Martin Scorsese avait osé dire qu'il n'aimait pas les films Marvel, ce qui a suscité donc un petit scandale. Notre ministre de l'Intérieur a été injustement moqué car il a déclaré qu'un individu voulait s'inspirer du 11 septembre 2001 et cet individu a été interpellé par les services de police. En parlant d'un homme qui, s'il a été écroué pour association de malfaiteurs, n'avait pas dépassé le stade d'un message sur les réseaux sociaux. Un journaliste de Libération n'aime pas le dernier album d'Astérix et le fait savoir. Indignation encore. Florent Pagny critique les Gilets jaunes chez Laurent Ruquier pendant la promo de son dernier album. Éric Zemmour, comme tous les soirs, dit qu'il est du côté du général Bugeaud qui massacrait des musulmans et des juifs en Algérie au XVIIIe siècle, car c'est ça être français. Et enfin, les anti-corrida se fâchent très très fort avec Pierre Arditi et Dupont-Moretti qui, eux, défendent la corrida. Comment expliquer ce réflexe qui nous pousse à décrier, à moquer, à dénoncer en permanence un fait? Qu'est-ce que cette addiction à l'indignation d'une société contemporaine? C'est à cette question, Laurent de Sutter, que vous répondez dans Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous, publié aux éditions de l'Observatoire, un ouvrage dans lequel vous remontez à l'origine intellectuelle de ce phénomène et invite à inventer une nouvelle forme de rationalité. Ma première question permettra de faire une mise au point sur le sujet de ce livre. Laurent, lors de la sortie de cet ouvrage, il y a 2 mois, certains à droite ont voulu utiliser votre livre comme une charge contre l'ère du politiquement correct, de la pensée unique, l'indignation étant perçue par ces personnes comme le registre privilégié des bien-pensants. Que pensez-vous de cette réception ?
Merci d'abord pour l'invitation. Merci d'avance pour les questions et merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre présence. Ce n'est jamais évident que quelqu'un veuille se déplacer pour écouter quelqu'un qu'il ne connaît peut-être pas forcément. Donc merci de votre temps et de votre écoute. C'est vrai que ça a été très très comique cette affaire. Le sujet de l'indignation est un sujet qui en soi, disons, d'une certaine manière nous indigne et fait le mot lui-même d'une certaine manière a déjà une provoque déjà des débuts de réaction qui sont de type épidermique, c'est-à-dire on entend le mot indignation et ça commence, le nez chatouille, les poils se dressent un petit peu, on ne sait pas très très bien dans quelle direction d'ailleurs ça va aller, mais on sent très bien qu'il y a immédiatement un problème. Et c'est vrai que quand le livre est sorti, je m'attendais à ce qu'il y ait, parmi toutes les réactions possibles à ce livre, je m'attendais évidemment à ce qu'il y en ait une en particulier, et qui n'a pas effectivement évité de se produire, c'est de dire « Ah, enfin le livre qu'on attendait pour pouvoir dire du mal de l'indignation ». Et en effet, plusieurs journalistes, je pense par exemple à Eugénie Bastier, chroniqueuse bien connue du Figaro, m'ont interviewé à l'occasion de la sortie du livre avec cette question qui arrivait comme ça, de derrière, comme ça, de très loin, mais enfin bon, de si loin qu'on la voyait quand même venir, voilà, qui était « Oui, mais enfin, Laurent de Sutter, l'indignation qui est partout, qu'est-ce que cela veut dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, on peut plus vraiment parler. La liberté de parole, la liberté de penser, quelque chose qui est aujourd'hui attaqué par les indignations, ce qui est vraiment une question qui, moi, me fait tomber les bras, quoi, parce que c'est exactement ce dont je parle pas dans le livre. Hein. Je viens pas dire dans le livre l'indignation c'est bien ou l'indignation c'est mal. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et surtout, ce que j'essaie de faire dans ce livre, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est de me dire, ok, l'indignation qui nous saisit tous. Je suis le premier à, si vous voulez, m'agacer quand j'apprends une nouvelle, voilà, qui correspond à, je sais pas, qui correspond pas plutôt à, je sais pas, mes principes, mes croyances, mais bon. Et donc, j'ai pas du tout envie de me placer non plus dans une situation, dans une position qui serait une position de surplomb extrême par rapport à toute cette affaire. Moi, ce qui m'a intéressé de me dire, ce qui m'a intéressé avec ce livre, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que ce phénomène qui nous occupe tous, qu'est-ce qu'il équipe, qu'est-ce qu'il fait qu'il est si efficace, qu'est-ce qu'il fait qu'il nous saisit si fort, qu'est-ce qu'il fait qu'il se répand. Et qu'est-ce qu'il fait, d'une certaine manière, qu'en effet, il a une emprise si puissante sur nos existences. Si vous voulez, la question qui m'a intéressé, c'est évidemment pas la question du pourquoi l'indignation, parce qu'on ne peut plus parler, parce que le politiquement correct, parce que sincèrement, je m'en fiche. Chacun ses explications sur ce genre de choses, mais le comment, c'est-à-dire les modalités de fonctionnement de l'indignation, les modalités de fonctionnement de l'indignation dans sa relation évidemment au scandale, mais dans sa relation aussi avec une catégorie essentielle qui est très souvent utilisée dans les débats sur l'indignation, qui est la catégorie de raison. C'est quand on parle d'indignation, hein, les éditorialistes salariés, si vous voulez, les observateurs lucides, vous diront toujours qu'en fait, l'indignation, le phénomène de l'indignation dans nos sociétés est l'illustration d'une espèce de dérive, hein, déjà le mot dérive, d'une dérive qui est une dérive, au fond, de la rationalité de l'échange et de la rationalité de la discussion en direction de... des passions mauvaises, en direction des émotions non maîtrisées, en direction de, en fait, du triomphe de l'irrationalité. Avec l'indignation, on assisterait véritablement dans notre monde à, effectivement, à la mise sur le trône, comme ça, de la rationalité érigée comme modalité de fonctionnement générique de l'espace public. Et c'est cette affaire-là, si vous voulez, que j'ai véritablement voulu prendre. Comme angle d'attaque ou comme perspective. Parce que, et c'est une autre chose qu'il faut que je vous dise peut-être avant d'avancer, ce livre, c'est pas le premier pour moi qui est dans ce cas-là, parce que j'aime bien en fait ce phénomène. C'est un livre qui est un livre commandé. C'est-à-dire, c'est un livre dont je n'ai pas eu l'initiative du sujet. Je ne me suis pas levé un jour en me disant « Ah, il faut que j'écrive un truc sur l'indignation. Le monde n'attend que ma parole sur cette affaire. » Au contraire, c'est l'archétype du genre de sujet sur lequel j'ai tendance à ne pas vouloir écrire du tout. Parce que précisément, ce sont des sujets casse-gueule et ce sont des sujets qui sont entourés. D'abord, ce sont des sujets casse-gueule parce que ce sont des sujets qui nous touchent très profondément. Et puis, ce sont des sujets casse-gueule aussi parce que ce sont des sujets qui, précisément, sont saturés de ce discours éditorialiste, de justement ces références aux principes, par exemple la question de la liberté de parole, etc., de toute une série de choses qui sont des choses tellement compliquées à manipuler, tellement difficiles en réalité, tellement problématiques, que sincèrement, je ne voudrais pas venir mettre ma main dans cette affaire, sinon c'est sûr, si vous voulez, d'en être broyé. Mais bon, parfois, il y a des gens qui ont des arguments persuasifs, et en l'occurrence, Adèle Van Riet, qui dirige cette collection aux éditions de l'Observatoire, collection qui s'appelle La Relève, a été effectivement persuasive à plusieurs égards, dont je ne vous cache pas un égard financier. Et je me suis dit, bon, très bien, ok, c'est un défi. C'est intéressant, les défis. Parce que les défis, c'est ce qui vous fait travailler précisément ce que vous n'auriez peut-être pas travaillé spontanément, qui vous oblige à réfléchir sur un sujet sur lequel vous n'aviez pas envie de réfléchir. Donc c'est pas inintéressant de savoir que, pour moi, c'est une commande, et c'est une commande qui, du coup, m'a requis de faire ce travail de décalage et de tentative de dire quelque chose de possible à l'intérieur d'un espace qui est un espace dans lequel tout me paraissait impossible. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet angle, cette espèce d'angle d'attaque sur la question de la raison et que j'ai choisi, du coup, de prendre en fait le contre-pied de tous ceux qui disent que l'indignation est le témoignage du triomphe de l'irrationalité dans l'espace public. Je me suis dit, et si en réalité, l'omniprésence de l'indignation était au contraire le témoignage principal, si vous voulez, l'incarnation même du triomphe de l'inverse, c'est-à-dire du triomphe de la raison. En réalité, c'est la raison elle-même, c'est l'hypothèse que je fais dans ce livre, c'est la raison elle-même, en l'occurrence la raison telle qu'héritait la modernité, parce que la raison a son histoire, c'est la raison elle-même qui trouve dans l'indignation son terminus ad quem, comme disent les juristes, si vous voulez, sa perfection, sa réalisation la plus parfaite. En partant de cette, si vous voulez, en utilisant cet angle-là, que je me suis ensuite engagé dans les récits qui composent ce livre.
Est-ce que l'indignation serait, selon vous, devenue le principal mode de constitution des identités contemporaines ? On doit choisir un camp et finalement, c'est indissociable de cette structure de groupe, de communauté. Est-ce qu'on peut s'imaginer de s'indigner tout seul ?
Voilà, c'est effectivement un très vaste problème, ça. C'est un très, très vaste problème et c'est une très, très grande difficulté. En effet, la première chose que l'on peut observer, si on s'intéresse effectivement au mode de fonctionnement de l'indignation, son premier effet, la première chose que l'indignation fait, produit véritablement, fabrique, c'est des partages. Elle en a besoin. pour fonctionner. Des partages qui sont des partages pratiquement exclusivement, enfin je n'ai pas d'exemple en tête contraire, mais qui sont des partages binaires, bien évidemment. Des partages gauche-droite, républicain, démocrate, raciste, antiraciste, homophobe, pro-gay, etc. etc. Des partages du monde qui créent des fronts. Et évidemment, s'il s'agit de partages, ce sont des partages exclusifs. Hein. Ce ne sont pas des partages où vous pouvez dire « je suis un peu des deux ». Ce sont des partages exclusifs et des partages qui, pour pouvoir se soutenir, requièrent du matériau, quoi. Ont besoin de matériaux à traiter pour pouvoir fonctionner. De sorte qu'effectivement, l'indignation est un dispositif qui est particulièrement pratique lorsqu'il s'agit d'établir quelque chose comme un partage, puisque c'est son mode de fonctionnement premier. Et des partages qui sont des partages qui, ont vocation à s'additionner, quoi. C'est-à-dire que, voilà, disons, vous réveillez le matin, il y a tel scandale politique en provenance, disons, des États-Unis, hein, cet imbécile de Trump a encore dit une connerie, hein, etc. Bon, décidément, les gens qui ont voté pour lui sont vraiment bien cons. Voilà, ça c'est ce qui se passe à 9h30. Voilà. Puis à 12h30, vous avez une déclaration, effectivement, de Blanquer sur sa réforme à BFM TV. Blanquer, pauvre merde, etc. Bon, etc. Bon. Il y a les partages qui s'opèrent sont des partages qui sont des partages additionnels. Il n'y en a jamais un qui finit par définir, si vous voulez, la totalité du monde. Il n'y a jamais un seul des partages que nos indignations soulignent qui va être le partage qui va dire la vérité finale des choses. Il y a une multiplicité de partages possibles, une multiplicité de divisions possibles. Et au fond, ce qui se passe dans le domaine de l'indignation, c'est véritablement qu'une indignation chassant l'autre. C'est, si vous voulez, l'espèce de moiré de division, le moiré de partage, et donc aussi le moiré des choix que l'on opère au niveau de ces partages, qui finissent par dire quelque chose, qui finissent par raconter ensemble une espèce d'histoire, qui est une histoire qui n'est autre que l'histoire de notre existence, au fond, l'histoire de ce que nous sommes. Hein. Étant donné que si nous sommes de gauche, ben, nous ne sommes pas de droite. Si nous sommes athées, bien nous ne sommes pas religieux. Si nous sommes antiracistes, bien nous ne sommes pas racistes, etc., etc., etc. Si vous voulez, toute une série de qualités ou de caractéristiques ou de traits qui s'additionnent et qui ensemble définissent le catalogue des accessoires, si vous voulez, qui font notre personne au même titre que les vêtements que l'on met comme ça, couche par couche sur nous-mêmes, qui donnent d'une certaine manière, qui déterminent nos apparences, qui décident des signes que l'on envoie à l'extérieur, eh bien, d'une certaine manière, les indignations jouent dans notre existence ce rôle-là, ce rôle, au fond, de garant ontologique, pour le dire comme cela, de garant de ce qu'on est quand même quelque chose dans le monde et qu'on est une chose qui s'arrache à toutes les autres choses que l'on n'est pas et que l'on ne veut pas être. De sorte que l'indignation, en réalité, ne peut jamais être singulière dans nos existences. Il n'y a jamais une indignation. On s'est levé un jour, indigné par quelque chose, et ensuite, on s'accroche à ce fétiche et on traverse la vie avec. Les gens qui sont dans cette situation, en général, finissent dans les asiles psychiatriques. La plupart du temps, l'une chasse l'autre, et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a tendance à oublier celle qui était celle du... Voilà, on les oublie, parce que c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est véritablement la manière dont elles finissent par raconter quelque chose, par constituer effectivement cette narration. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet effet de division, qui est un effet d'identification sur base de la division, l'identité, évidemment, se constitue sur base de la différence, hein, c'est là... grande histoire, d'une certaine manière, de l'identité, et aussi la grande bêtise de l'identité, c'est qu'elle se constitue sur la différence, elle implique qu'on n'est pas seul dans ce shopping. On est tous en train de faire notre shopping. Et donc, on va rencontrer, à l'intérieur du grand supermarché des positions possibles, on va rencontrer évidemment toute une série d'autres personnes avec qui, eh bien, on va finir par effectivement fabriquer quelque chose qui tient de la communauté. De sorte que c'est un autre effet, ou c'est le même effet, mais vu d'un autre point de vue. Le fait que nos indignations nous constituent ou aident à nous constituer est aussi ce qui constitue ou aide à constituer, ou qui fonde ou aide à fonder, qui garantit ou aide à garantir quelque chose qui est de l'ordre effectivement des groupes, des sociétés, des groupements, des communautés, vous nommez ça comme vous voulez. Et l'exemple que j'utilise, que je redécris, parce que je pense qu'il est aussi important de re-raconter un certain nombre de choses, hein, parce qu'on oublie très très vite, et justement, pour nous souvenir, parfois il faut re-raconter, donc je re-raconte un certain nombre de scandales de manière détaillée. Et donc par exemple, dans le cas du scandale hashtag MeToo, c'est un scandale qui incarne cela de manière remarquable, qui nous permet de le voir à l'état presque clinique. Pas pour son contenu, sur lequel j'ai absolument rien à dire, évidemment. Je veux dire, c'était un moment très important et très utile, dont les effets, et c'est heureux, continueront à se faire sentir, je l'espère, le plus longtemps possible. Mais du point de vue de son mode de fonctionnement, il était véritablement illustratif de la manière dont le scandale fonctionne à l'intérieur de cet espace des identités, cet espace des groupes. Pourquoi ? Parce que sa formule, hein, le jour où, Milano, l'actrice, a lancé cette espèce d'appel, si vous aussi, vous avez été victime de harcèlement, etc., mettez, utilisez ce hashtag MeToo, dites moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il y a quelque chose de là qui est véritablement, si vous voulez, littéral, hein. Dire « moi aussi », c'est dire « moi aussi, je fais partie du groupe de ceux qui disent « moi aussi », dans une espèce de tautologie, qui est une espèce de tautologie qui indique assez la force de ce dont il est question. Effectivement, c'est la création de cette série qui n'existait pas avant, ou qui, si elle existait, elle existait qu'à, sous la forme de virtualité, ou elle existait sous forme de faits divers, ou elle existait sous forme de dossiers judiciaires, mais elle n'existait pas comme véritable identité en soi, comme véritable groupe en soi. Et la meilleure preuve, si j'ose dire, de ce mode de fonctionnement, c'est le moment où un certain nombre de femmes, ici en France en l'occurrence, c'était une tribune du Monde qui avait fait couler pas mal d'encre à l'époque, je dis à l'époque parce que c'était déjà il y a un peu plus d'un an, bon. On dit « mais pas, en fait pas moi » ou « pas tout à fait moi » ou « je suis pas sûr que moi aussi ». Ce qui était un geste de mise en crise, un geste de scandale qui relance le scandale à l'endroit où il se situe véritablement, à savoir, est-ce que vous faites partie du groupe ou pas ? Est-ce que ce groupe a vocation à exister ou pas ? Étant donné que si quelqu'un refuse sa vocation à exister, il a d'autant plus vocation à exister, bien évidemment, dans la logique qui est justement la logique de ces formes de différenciation. De différenciation. Donc il y a quelque chose là de très très fort et qui renvoie... pour ceux parmi vous qui aimaient la théorie, qui aimaient la philosophie, qui renvoie de manière directe à ce que René Girard, par exemple, a pu dire précisément de la figure très forte du scandale, hein, le scandalon grec. René Girard a utilisé ce mot à de nombreuses reprises, précisément pour décrire la dynamique de constitution des sociétés. Le grand exemple qu'il donne, évidemment, est l'exemple des premières communautés chrétiennes qui naissent autour du scandale qui a été la crucifixion du Christ, scandale judiciaire, scandale, bon. Et dans les écrits des premiers temps de la chrétienté, le mot utilisé, grec, hein, en l'occurrence chez Paul, c'est le mot scandalon. Le scandale, c'est, à la base, du point de vue du lexicographique, le scandale, c'est un caillou, hein, c'est le caillou sur lequel vous trébuchez. Le scandale est effectivement le caillou sur lequel trébuche le croyant dans son chemin vers la vraie foi ou dans son chemin vers Dieu. Et ce caillou est exemplifié, si vous voulez, cet obstacle est exemplifié de manière princeps par la crucifixion. Et donc Girard en déduit, en effet, cette théorie, voulant que le scandale n'est pas ce qui vient interrompre la communauté, ne vient pas ce qui vient la rompre, la briser, la mettre en question, mais au contraire, ce qui vient la fonder, la garantir, la légitimer, la justifier. Au commencement était, si vous voulez, le scandale. Le scandale ne vient pas après, ne vient pas dans un second temps. Et c'est une thèse qui, effectivement, que je trouve très forte, et donc j'ai reprise à mon compte pour décrire nos indignations contemporaines.
Pour rester sur cette notion de scandale, est-ce que le problème viendrait du fait que le scandale n'est plus une étape, mais une finalité en soi ? Ce qui pose aussi la question de la professionnalisation, en fait, de l'indignation, de savoir si on n'attend pas de certaines personnes de créer la polémique de manière à créer en fait une sorte d'indignation générale, d'indignation totale.
Oui, c'est une bonne question, mais c'est une question qui est très très compliquée. Et j'ai pas du tout, et je dois avouer que j'ai pas du tout réfléchi à ça parce que justement, s'engager dans cette voie-là, dire effectivement, il y a une professionnalisation du scandale, il y a des gens qui instrumentalisent le scandale aujourd'hui. J'ai envie de dire oui, bien sûr, mais je n'ai pas envie de me mettre à... c'est quelque chose que j'ai justement évité à tout prix dans mon livre, de mettre à accuser. Je vous ai dit, de même que je n'ai rien personnellement contre le scandale, je n'ai rien non plus contre ceux qui se scandalisent. Et s'il y a des gens qui font du pognon sur le scandale parce que ça marche pour leur télé, j'ai envie de dire pauvre type, mais enfin, ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Et donc c'est vrai que j'ai tendance à laisser ça de côté. En revanche, ce sur quoi j'ai peut-être un truc à dire par rapport à cette affaire, c'est-à-dire effectivement par rapport aux métamorphoses contemporaines du scandale et à la manière dont il s'installe aujourd'hui dans un espace très particulier qui est l'espace de la technocommunication, enfin l'espace des médias de masse, des médias électroniques, l'espace des réseaux sociaux, etc. Là, il y a effectivement quelque chose que je trouve assez intéressant en fait, qui est relativement nouveau. L'indignation, c'est pas nouveau, hein. On est bien d'accord. Je veux dire, ça, c'est aussi vieux que l'humanité, l'indignation. Je veux dire, des indignations, vous en trouvez dans l'Iliade et l'Odyssée, vous en trouvez chez Platon, vous en trouvez partout. De l'indignation, du scandale, les trucs. C'est aussi vieux que l'humanité, c'est aussi vieux que le café du commerce, le scandale. Les théories qui aussi équipent, si vous voulez, scandale, ça faisait partie, c'était le job du poivreau. Du café, là, qui au coin, vous balancez ces théories sur je sais pas moi, le prêtre machin, sur la pédophilie ici, sur n'importe quoi, enfin, tout ce qui permettait effectivement d'établir quelque chose qui soit de... Voilà. Simplement, ce qui a changé avec l'avènement des médias de masse, et donc ce qui a changé au fond dans la modernité du point de vue du support technique de l'indignation, c'est sa prodigieuse capacité à, non pas la multiplier, parce que je ne crois pas non plus qu'il y a plus de scandales aujourd'hui qu'avant, parce que littéralement, tout est toujours scandaleux, si vous voulez, quand vous y réfléchissez une seconde, mais sa mise en visibilité, son esthétique, pour le dire comme ça. C'est-à-dire le scandale aujourd'hui est quelque chose dont nous avons une conscience beaucoup plus aiguë qu'avant, parce qu'elle dessine effectivement une esthétique de nos existences, une esthétique qui est une esthétique de nos relations avec ça, mais aussi... une esthétique au sens littéral du terme, au sens où il y a une perceptibilité du scandale qui est une perceptibilité infiniment plus forte, puisqu'en effet, il y a aujourd'hui beaucoup de médias qui objectivement s'en nourrissent. Après, les feuilles à scandale, hein, dans la grande presse du 19e siècle, c'était un genre, évidemment, qui existait, qui faisait déjà énormément d'argent. Les magazines à scandale, type Closer, etc., n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Voilà. Mais je crois que, voilà, il y a cette espèce de visualisation qui en fait quelque chose de très positif. Parce que pendant très très longtemps, le scandale faisait l'objet... d'une forme de police, qui est une police liée au mode de fonctionnement des médias. Les médias, parce qu'ils réclamaient de l'argent pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être menés, parce qu'ils ont réclamé pendant très très longtemps aussi un satisfait quitte de la part du pouvoir, hein, une forme très particulière de censure positive qui a pu exister pendant très longtemps en matière médiatique, rendait la visibilité du scandale dépendante du bon vouloir de ceux qui avaient accès aux médias. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux médias. Et donc, c'est seulement maintenant que l'on se rend compte à quel point le scandale fait partie de nos vies, à quel point le scandale, en fait, a toujours fait partie de nos vies. De sorte que j'aurais tendance à dire qu'on vit une époque qui est plutôt pas mal. Ça nous donne des ulcères à longueur de journée, mais en même temps, c'est quand même pas mal que l'on sache que c'est ça, en fait, véritablement, qui est notre condition. Et que cette condition... est une condition qui se soutient des choses qui sont les plus importantes pour nous, à savoir ce que nous sommes, les groupes auxquels nous appartenons, mais aussi l'idée que nous nous faisons d'être effectivement des êtres développés, intelligents, qui avons des idées, qui sommes renseignés, qui sommes informés, qui avons une capacité de verbalisation et de raisonnement. Et du reste, quand vous regardez les réseaux sociaux et que vous regardez les manières dont les gens se clashent les uns les autres à longueur de journée, mais ça vaut aussi pour les débats télévisés, c'est jamais « pauvre merde, toi-même, connard, toi-même ». Non, c'est « sur ce sujet-là, j'ai vu que, et puis il y a tel scientifique qui a dit que, il y a un article qui est sorti, un rapport de machin, un truc ». Il y a une espèce d'équipement très lourd et très puissant des indignations qui s'opère dans ce qui est avant tout un phénomène d'échange. Effectivement, il n'y a pas d'indignation solo. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a que des indignations qui sont des indignations verbalisées. Et cette verbalisation, à nouveau, elle s'opère par argumentation, faits, théories, tout ce que vous pouvez imaginer. Une espèce d'épaississement, si vous voulez, du cri qui vise à lui donner la consistance d'un dossier. Quelqu'un qui prend la parole pour dire, voilà, il va vouloir établir que, au fond, effectivement, ce dont il est question dans les tours du 11 septembre, c'est pas les deux avions qui les ont fait chuter, mais c'est en fait la CIA qui a plastiqué les buildings parce que, etc., 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 avec information, dossier, plan, tout ce que vous pouvez imaginer, justement, comme matériaux. De sorte qu'en effet, cette indignation, comme phénomène social et comme phénomène de discussion, appartient véritablement à la manière dont nous concevons l'échange et à la manière dont, comment dirais-je, nous acceptons en réalité tous, même le platiste le plus frénétique, hein, c'est des gens qui croient que la Terre est plate, évidemment, ils accepteront, la seule chose qu'ils accepteront sans discuter, c'est effectivement le fait que l'échange public est un échange réglé. Et que l'échange public est un échange réglé par un principe qui est précisément un principe de rationalité, c'est-à-dire un principe d'argumentation et de verbalisation où, en fait, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et en réalité, même quand vous dites n'importe quoi, enfin, ce que la personne qui est en face de vous considère être n'importe quoi, ce n'importe quoi sera un n'importe quoi qui sera présenté, développé par vous, et peut-être cru par vous, comme étant la chose la plus rationnelle au monde. Personne ne va se lancer dans un débat en disant « maintenant, je vais dire n'importe quoi ». Au contraire, il y a une véritable foi, si vous voulez, dans la solidité de ce qui est avancé, dans la solidité de ce qui est dit. Et bon, je suis parti assez loin de la question, mais en réalité, c'est véritablement dans cette direction-là, si vous voulez, que j'ai voulu fonctionner ou que j'ai voulu observer comment un certain nombre de dossiers massifs, ultra massifs, beaucoup plus massifs que ceux qui, en fait, sont plus intéressants, sont ceux que tu as dit tout à l'heure. Mais moi, j'ai pris des trucs très, très massifs parce que, justement, c'est tous écharpés la tronche dessus, que ce soit, effectivement, hashtag MeToo, que ce soit les caricatures de Mahomet, que ce soit un scandale qui concerne l'eau, Nestlé, etc., que ce soit Alexis Tsipras et le gouvernement de Syriza qui baisse la culotte en juillet 2015, ou que ce soit la photo du petit Aylen Kurdi, là, sur la fameuse photo du petit Syrien échoué sur la plage, comme ça, le visage dans le sable. Donc ce sont des dossiers, si vous voulez, qui sont des dossiers lourds, mais qui tous contribuent, je crois, chacun à leur manière, à donner, à comprendre un des aspects de la manière dont, en effet, l'indignation chez nous est le lieu dans lequel se manifeste ce que, au plus profond de nous-mêmes, nous croyons être échange rationnel. La manière dont l'espace public chez nous se constitue et dont nous considérons qu'il est juste qu'il se constitue. De la même manière, à l'intérieur de cet espace, comment nous considérons comme juste, bon, valable, intéressant d'échanger, de parler, de discuter, de débattre, en fait.
Alors, avant d'évoquer justement l'un de ces grands sujets, je voulais savoir pourquoi, selon vous, l'indignation ne révèle pas d'une émotion, d'une passion ou d'un sentiment, du fait de sa spontanéité et de son expression en tant que sursaut, mais d'une forme particulière de la raison, parce que c'est vraiment ça le cœur du livre. Ce n'est pas le contraire de la raison, l'indignation, mais un fruit de la raison elle-même, hein, c'est-à-dire...
Oui, vous avez déjà eu 2-3 indices. C'est quoi la raison ? Là aussi, comme le scandale, la raison est évidemment aussi vieille que le monde, aussi vieille qu'il y a des écrits, aussi anciennes qu'il y a des philosophes, des penseurs, etc., des gens qui sont venus tenter de penser la manière dont nous pensons. Mais c'est pas pour autant qu'elle est restée stable, la raison. En l'occurrence, la raison a une histoire. La raison a changé dans ses buts, dans son mode de fonctionnement, dans son inscription dans le monde, dans son contexte. Et elle a pris, à travers l'histoire, effectivement, différents visages. Et nous, là, en Occident, dans les années presque 20 du 21e siècle, nous sommes les héritiers d'un modèle très particulier de la raison, qui est un modèle qui a fait l'objet de critiques latérales, mais qui demeure le modèle dominant dans notre système de pensée. Et ce modèle, c'est le modèle né effectivement avec la modernité, qui est le modèle dont on peut dire, alors c'est peut-être injuste d'en faire le punching ball de service, mais enfin, il en faut un, donc j'ai choisi celui-là, dont on peut dire que peut-être Emmanuel Kant forme, si vous voulez, le modèle, l'incarnation, en tout cas, dont on peut dire que c'est lui qui a défini, de la manière la plus ambitieuse, la plus vaste, la plus complète et la plus radicale, le programme. Et ce programme s'énonce de manière extrêmement simple dans la deuxième préface de la Critique de la raison pure, hein, dans les années, dans la deuxième préface, donc la première édition 1780, deuxième 1786, si je ne fais pas erreur. Et donc dans cette deuxième préface, celle de 1786, j'insiste sur cette date, vous allez voir pourquoi plus tard, il dit, voilà, au fond, la raison, il est temps de la sortir du lieu où elle s'exerçait et de la reformuler d'une manière plus adéquate à ce qui est le fond de l'expérience humaine. Voilà, pour le dire comme ça. Qui est bien évidemment un fond basé sur une finitude absolue, hein, sur l'acceptation du fait que nous ne pouvons pas connaître la vérité. La vérité n'est pas quelque chose que nous pouvons connaître au sens le plus profond de la connaissance. Hein. Nous avons des limites, si vous voulez, dans notre capacité à connaître. Par contre, à l'intérieur de ce monde d'indétermination, où la vérité nous demeure inaccessible, nous pouvons nous orienter. Et pour nous orienter, nous avons un outil, qui est cet outil qui est formalisé par Kant dans ses trois critiques, qui est l'outil de ce qu'il appelle précisément le tribunal de la raison. Et le mot tribunal est un mot qui est très important. Ce n'est pas une manière de parler, hein. Ce n'est pas une métaphore. Véritablement, chez lui, tribunal doit être compris au sens le plus littéral du terme. Tribunal, c'est l'instance du jugement, hein. Et la critique, krisis en grec, et Kant est le premier à la reconnaître, ce n'est rien d'autre que le moment du jugement, et même le moment du jugement ultime, pas le jugement dernier, au sens apocalyptique du terme, mais véritablement le jugement ultime. Le moment où la décision tombe, et c'est fini, c'est sans appel. Et le tribunal de la raison, c'est cette figure de la raison qui se donne à nous comme la capacité que possède un sujet de mettre en œuvre ses facultés, de telle sorte que l'exercice de ses facultés lui permette de juger de ce qui est. De juger de ce qui est dans quel que soit le domaine, qu'il s'agisse du domaine de la pensée pure, du domaine de la science, du domaine de l'art, hein, le sommet des trois critiques, c'est quand même la critique de la faculté de juger, qui est un livre sur l'art, qui est un livre sur l'esthétique, qui est un livre qui a défini ou redéfini de manière profonde, là aussi, l'expérience que nous faisons, si vous voulez, de l'art. Et donc il dit, au fond, c'est ça, la raison, c'est cet outil qui nous donne la capacité à juger, la capacité à trancher dans tous les possibles qui se donnent à nous, pour en dire, si pas la vérité, mais en tout cas pour en dire sa place à l'intérieur des places possibles, c'est-à-dire beau, moche, grand, petit, bon, mauvais, etc., etc. Effectivement, une espèce de dispositif, c'est un dispositif, en gros, c'est accusez-le-vous, innocent ou coupable, hein, je veux dire, c'est un peu de cela dont il est question. Et cette machine est une machine qui est une machine prodigieuse, qui est une machine prodigieuse, pour une raison très simple. C'est qu'en effet, malgré qu'elle s'inscrit dans un espace qui est un espace limité, sa puissance, à elle, est une puissance absolument illimitée. Vous ne pouvez rien contre un jugement. Que je sache, personne n'a jamais vu une œuvre d'art se rebeller contre le fait que vous disiez que vous ne l'aimez pas. Il y a peut-être une personne en face qui dit « Quoi, t'aimes pas Joker ? Ce film est génial ! Enfin, les films de super-héros rentrent dans un truc ! Non, c'est de la merde !» Mais Joker, le film, lui, continue à passer dans les salles, indifférent totalement à cette affaire. Et puis, absolument faible aussi par rapport à la puissance de votre jugement. Il ne peut rien faire, le film. Vous êtes là, dans votre souveraineté absolue, et vous faites tomber, ça, et on fait tous, hein, je veux dire, on fait tomber nos verdicts à longueur de temps. Verdict qui, effectivement, place, si vous voulez, ce que l'on rencontre à l'intérieur d'un espace qui est un espace polarisé. Mais ce qui vaut pour les œuvres d'art vaut en réalité pour tout. Nous avons une relation de critique d'art avec à peu près tout ce qui se passe sur cette terre, avec les discours des politiciens, avec les événements qui se passent dans le monde, avec les actions des multinationales, avec ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure, aujourd'hui, maintenant. Tout à l'heure, quand vous sortirez, vous aurez dit oh, « il est complètement con ce mec », ou au contraire « ah, c'est pas bête, hein, il parle bien ». Bon, c'est ce rôle, cette manière de fonctionner est effectivement quelque chose qui est plus fort que nous. Qui est plus fort que nous parce qu'effectivement, nous en sommes les héritiers dans un sens très fort. C'est notre logiciel, notre système opérateur, notre système, comment est-ce qu'on appelle un OS, operating system, système en informatique. Vous savez, c'est le machin qui fait tourner notre... voilà. Sauf que quelqu'un l'a installé, ce système. Il y a d'autres systèmes possibles. Il y a eu d'autres moments, d'autres moments dans l'histoire de l'humanité, d'autres civilisations dans lesquelles la question du jugement ne s'est jamais posée. Pour nous, c'est devenu l'épitomée, la réalisation même, la perfection, si vous voulez, de ce que la raison rend possible. Et à nouveau, c'est quelque chose qui est d'une force absolue et d'une force inouïe. Et pourquoi je racontais cette histoire, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est un rapport très très étroit avec la question que j'ai oubliée.
C'est savoir pourquoi, enfin voilà, en quoi l'indignation est le fruit de la raison elle-même.
Et voilà, oui. Et l'indignation est effectivement ce moment où s'exprime cette capacité qui est la nôtre, de la manière la plus forte, la plus vitale, si vous voulez, où le jugement n'est pas juste quelque chose qui sert à servir dans votre travail, etc., mais à définir à nouveau les partages qui permettent de nous accessoiriser et donc, en dernière instance, de nous dire être X ou être Y. Donc, en effet, l'indignation est le moment où s'intensifie affectivement, à travers effectivement les émotions que nous ressentons, une espèce d'ébullition cérébrale, effectivement, cette espèce de mode de fonctionnement quand nous nous mettons à le verbaliser. Parce qu'en réalité, l'indignation, tant qu'elle est juste cette chose qu'on ressent, est-ce qu'elle est déjà une indignation ? C'est pas trop. Il y a quelque chose qui passe pas, en tout cas. Mais à partir du moment où elle se verbalise, elle commence à être verbalisée, où un mot sort, ce mot se trouve immédiatement installé à l'intérieur du système de traitement qui est le système effectivement de traitement de la raison, compris dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire, je me suis intéressé à l'indignation tant que j'avais l'impression qu'effectivement elle portait ce processus à sa réalisation la plus totale. Pourquoi ? Eh bien, prenez l'exemple de théorie du complot. Les dates sont importantes. Elles sont importantes parce que précisément elles permettent de développer des théories du complot très très efficaces. Donc je vais vous développer une théorie du complot à propos de la théorie du complot. 1786, Kant développe cette espèce de théorie magnifique, en même temps sublime. Je veux dire, quel édifice, quelle cathédrale philosophique, et puis surtout, qu'est-ce qu'elle a permis ? Elle a permis plein de choses, la raison moderne. Je ne suis pas en train de l'évacuer comme ça d'un revers de la main. Elle a construit plein de choses modernes, plein de choses qui sont des choses fortes et des choses importantes, mais enfin, Quand Kant la met en place, il la met en place comme véritablement une manière d'établir une relation avec le monde, qui est une relation au fond de victoire, une relation de force par rapport au monde, et une relation qui vise à faire cracher au monde son secret. Le jugement, c'est ce qui vient qualifier, si vous voulez, de manière finale, ce qu'une chose est véritablement, à défaut que ce soit sa vérité au sens métaphysique du terme, mais en tout cas, sa vérité, disons, pour nous. Et en fait, l'histoire du complotisme... C'est juste cette histoire-là. L'histoire du complotisme, c'est l'histoire de ceux qui viennent dire « Oui, mais en réalité, il y a quelque chose d'autre. Ça sent le sapin, cette affaire. » Et on va ensuite creuser pour savoir. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que la théorie du complot aussi a son histoire. Et elle aussi, elle est née à un moment donné. Et je vous le donne en mille. Les historiens, moi je suis pas historien du tout, donc je fais confiance aux historiens des théories du complot. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et qui ont fait des travaux très sérieux pour savoir quand est-ce que le complotisme apparaît dans l'histoire de la culture, etc. Et ils sont arrivés à détecter en disant voilà, le complotisme naît en réalité dans certains milieux religieux ultramontains, nostalgiques de l'Ancien Régime, précisément aux alentours de la Révolution, précisément dans les années qui sont... Alors, un petit peu après 1789, en l'occurrence, mais dans les années qui sont les années qui voient aussi la naissance, précisément, du dispositif qui, au fond, le permet. Et le premier exemple, c'est l'exemple du ce qu'on appelle complot maçonnique, qui naît, effectivement, à la Révolution, qui naît dans les milieux chrétiens, qui naît sous la plume de prêtres. Le nom du premier m'échappe, malheureusement, mais j'en parle un peu dans le livre. Je le cite dans le livre très rapidement. Qui est le premier à dire « Non, mais en réalité, la Révolution française, c'est un complot des francs-maçons pour en finir avec la chrétienté. » et je vais vous le démontrer. Et le mec, il s'est mis à chier des libelles comme ça sur ce sujet pour démontrer. Voilà. Vous avez considéré comme le premier complot. Alors, ma théorie du complot à moi, c'est de me dire, mais enfin, en réalité, le complot en question est un complot qui aurait été impossible s'il n'y avait pas eu quelque chose qui était en train de se transformer, d'une certaine manière, dans la manière dont nous équipons nos pensées, et qu'effectivement, on peut appeler raison au sens critique du terme, raison au sens moderne du terme. Comme si l'un n'allait pas sans l'autre, comme si l'un était la réalisation de l'autre. Et comme si aujourd'hui encore, au fond, celui qui fait le plus confiance au pouvoir de la raison, celui qui a le moins de doutes, c'est précisément le complotiste. C'est celui qui va s'y croire à fond. Et si, pour reprendre l'exemple des platistes, si vous allez vous promener du côté des sites platistes et des spécialistes du platisme, c'est extraordinaire comme ces gens-là ont la foi en la méthode scientifique. Ont la foi, une foi, mais vraiment la foi du charbonnier. En matière, effectivement, de rationalité, etc., etc., etc. Ce sont véritablement les plus grands avocats, au fond, de la capacité qu'un un sujet a jugé, qu'a la capacité un sujet à diviser le monde et à y voir plus clair que, etc., à l'aide du recours aux faits, de l'établissement des faits. Il n'y a personne qui croit davantage aux faits que les amateurs de délire, hein, en réalité. Il y a là quelque chose voilà, qui pour moi, en tout cas, qui se noue et qui est évidemment, comment dirais-je, source d'un problème. Ce problème, c'est le problème qu'il y a. Mais si on est si fort, qu'est-ce qui reste de ce sur quoi on exerce cette force, en réalité ? Quelle est la place dans nos pensées, dans nos expériences, de ces choses sur lesquelles nous passons notre temps à juger ? Les amateurs d'art qui passent leur temps à juger de l'art, j'ai beaucoup participé à des débats cinéphiles, j'ai beaucoup écrit sur le cinéma, etc. Dans la cinéphilie, c'est extraordinaire. La cinéphilie, c'est vraiment, c'est ça en permanence, c'est un bras de fer permanent, savoir si ça c'est bien, si ça c'est mieux, si ça en arrêté, ça c'est nul, etc., etc. Dans une espèce de truc de délire complètement dingue. Donc moi, j'ai jamais vraiment très bien compris la nécessité, même si j'ai participé plus souvent qu'à mon tour, évidemment. Parce que le jeu favori du cinéphile, c'est de dire que est absolument génial ce que tout le monde trouve débile, et réciproquement. Hein. Mais alors si jamais quelqu'un, voilà, en jouant comme ça une espèce de spirale, parce que si quelqu'un trouve génial aussi quelque chose que tous les autres trouvent débile, dans ce cas-là, vous allez devoir dire que, en réalité, non, c'est véritablement génial pour donner tort à la personne qui dit que c'est, etc., vous voyez, dans une espèce de machin qui a véritablement pas de fin. Mais le grand perdant dans cette affaire, c'est le cinéma lui-même dans la cinéphilie. Je pense que le cinéma est véritablement ce qui a souffert le plus de la cinéphilie en tant que machine de jugement. Il y a gagné parce qu'il y a eu des personnalités évidemment brillantissimes dans l'histoire de la cinéphilie, Serge Danet, enfin des gens comme ça. Mais parce que ce qui était intéressant chez eux, ce n'était pas leur jugement. Ce qui était intéressant chez eux, c'est ce qu'ils faisaient de la position et de la relation qu'ils avaient par rapport à l'œuvre. Et donc, en effet, que ce soit l'exemple est esthétique, mais dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'éthique, si vous voulez, le jugement, ça ne nous aide pas beaucoup, en réalité. Ça ne nous aide pas beaucoup. Ça écrase de notre force ce que l'on regarde, mais ça ne nous aide pas beaucoup à faire quelque chose avec cette chose que l'on regarde, ou que l'on est confronté, ou avec lequel on rentre en relation. Et donc le problème que j'essaie de souligner dans ce livre, c'est évidemment pas le problème de l'indignation en tant que telle, mais c'est le problème de cette rationalité en tant qu'elle nous met, et que l'indignation révèle, rend visible, et c'est important ça qu'elle la rende visible, mais révèle une position qui est effectivement une position de toute puissance, qui elle nous rend bête en réalité, parce qu'elle refuse de reconnaître une intelligence propre à ce à quoi on est confronté. Une intelligence propre aux situations, une intelligence propre aux événements, une intelligence propre aux œuvres, une intelligence propre aussi aux êtres que nous jugeons de manière absolument expéditive à longueur de temps. Et donc l'appel qui, d'une certaine manière, qui traverse le livre, et que j'essaie de formaliser à la fin sous la forme de toute une série de propositions, c'est de se dire, est-ce qu'en réalité l'indignation ne nous explique pas et ne nous révèle pas aujourd'hui que ce logiciel prodigieusement efficace que nous utilisons, qui est celui de la raison moderne, est un logiciel qui, en réalité, avait un bug dans son design, quoi. Il y avait une phrase de code qui était un peu problématique. Simplement, comme ces effets étaient des effets remarquables et très, très puissants et nouveaux, très efficaces, pendant très, très longtemps, on n'a pas eu besoin de s'en soucier vraiment parce que les gains étaient supérieurs aux pertes, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes véritablement confrontés à... On ne peut pas aller plus loin, si vous voulez. On ne peut pas aller plus loin dans cette exploration, si vous voulez, du monde comme soumis à nos capacités. Et nous avons besoin, urgent, me semble-t-il, et ça c'est, voilà, c'est une proposition que je fais, de commencer à travailler à une reprogrammation, si vous voulez, de cette espèce de logiciel intellectuel, à une reprogrammation peut-être de ce que nous entendons comme raison au profit d'autre chose, qui ne serait plus liée à nous, qui ne serait plus liée à notre force, qui ne serait plus liée à notre capacité à achever, à décider, à trancher, et donc à achever quelque chose, mais au contraire à la capacité à continuer, la capacité à devenir, la capacité à non pas nous entourer de choses qui viennent blinder notre être dans les choix qui sont les nôtres et dans les goûts qui sont les nôtres, mais au contraire à le faire sauter au profit de ce que nous pouvons être capables, au profit de ce que, comme disait Gilles Deleuze, vous savez, quand il parlait de Spinoza, il disait « qu'est-ce que peut un corps ?» effectivement, mais « qu'est-ce que peut un être ?» Qu'est-ce que peut un être ? C'est d'abord sortir de lui-même, c'est d'abord des êtres, si vous voulez, c'est d'abord devenir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inventer, d'explorer ou de rechercher du côté d'effectivement ce qui nous permet de sortir de nous-mêmes, de sortir de nos communautés, de sortir des catégories qui effectivement nous permettent de juger du monde ? Est-ce qu'il y a moyen de machiner un autre dispositif de pensée, un autre dispositif de relation au monde, qui soit véritablement un dispositif de relation au monde et pas simplement un dispositif au fond de spectateur plus ou moins charitable ou plus ou moins cruel par rapport à ce que nous voyons, quoi.
Alors, dans ce cas-là, comment faire pour agir si, à la moindre action, on se prend un torrent d'indignation sur le coin du nez, ce qui est le cas de Greta Thunberg, cette jeune adolescente qui cristallise en fait toutes les haines à travers le monde. Jeune adolescente à qui vous avez écrit une lettre, d'ailleurs, pour une émission de radio. Elle agit et pourtant rien ne va jamais, en tout cas selon des gens qui ont un avis très...
Elle n'est jamais assez bien, oui.
Ouais.
Et jamais assez bien, jamais assez bien informée, jamais assez pure, jamais au bon endroit, jamais sûre. En plus, c'est une fille, en plus, elle est aspergée. Oui, mais non, c'est bien qu'elle est aspergée. Oui, mais en fait, non, etc. Effectivement, c'est juste invraisemblable ce qui se passe. C'est juste invraisemblable parce que, précisément, il y a là quelque chose une volonté. Là, pour le coup, c'est véritablement cela. C'est-à-dire le refus délibéré d'aller avec. Le problème, c'est que d'aller avec, parce que si on y va, alors il pourrait y avoir ceci, ou pourrait y avoir ça. Ah, en fait, ce n'est pas compris. Car, parce que, et tout, à nouveau, toute cette logique comme ça, argumentative, des enchaînements de pensée. Le truc, c'est que évidemment, si vous n'allez pas avec, si vous ne vous posez pas la question de et si effectivement on accompagnait cette jeune personne là où elle va. Bien sûr, je veux dire, elle ne détient pas la vérité du monde. C'est évidemment pas un prix Nobel de global science, qui est une catégorie non nobelisable, mais enfin, évidemment, mais qui, je veux dire, qui pourrait dire ne pas être dans la même situation, hein? Ce qu'elle fait, et Slavoj Žižek a fait un texte très 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 beau là-dessus, sur la question justement de l'apôtre et du prophète, je crois, dans lequel il disait en fait: tous les gens qui lui tapent sur la figure en disant qu'elle n'est jamais assez juste, elle n'est jamais assez scientifique, elle n'est jamais assez pure, elle n'est jamais ceci, elle n'est jamais ça, elle n'est jamais assez mature, elle n'a jamais assez d'expérience, se méprenaient profondément sur la place qui est la sienne. C'est-à-dire, ils viennent écraser sur elle des qualités ou des défauts, mais ce qu'effectivement elle fait, ce qu'elle accomplit, ça par contre, c'est comme si ça n'a pas beaucoup d'importance. Or, c'est peut-être la seule chose qui est un petit peu importante. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la politique. Elle transforme un sujet qui est un sujet d'indignation morale, un sujet qui est un sujet d'urgence, un sujet qui est un sujet qui nous saisit dans notre vie, en quelque chose de politique au sens le plus terre-à-terre du terme, c'est-à-dire quelque chose qui oblige des gens qui ont du pouvoir à ne pas faire comme si ça n'existait pas. Donc véritablement, elle aussi, un peu comme les réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure, elle est une force de visibilité. Et la politique, c'est ça. La politique, c'est la question de... la lutte sur le partage entre le visible et l'invisible, le dissible et l'indicible, le pensable et l'impensable. Et elle oblige à bouger, au fond, une ligne, et au plus haut niveau médiatique, au plus haut niveau des pouvoirs, pouvoirs locaux, mais aussi pouvoirs internationaux, hein, puisqu'elle a parlé devant à peu près toutes les grandes institutions. Elle a parlé devant les institutions européennes, plusieurs d'entre elles. Elle a parlé évidemment devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a parlé devant toute une série de parlements, au Royaume-Uni, ici en France. Ça a été d'ailleurs la version la plus pathétique. Les réactions étaient les plus pathétiques. Et donc oui, la question de choisir entre juger et accompagner est une décision là qui se matérialise de manière très très forte dans son cas. Mais on peut même aller encore plus loin. Il y a pas mal de gens qui disent oui, mais qu'est-ce que vous faites ? Alors des gens qui s'indignent vraiment et qui vont dans la rue et qui font des choses. L'indignation, c'est quand même important pour justement faire bouger les choses, etc. Évidemment, évidemment. Simplement, ce dont il est question dans ces moments où fait bouger les choses, où on agit vraiment. J'aime pas trop cette expression, agir vraiment, comme s'il y avait agir faussement, je sais pas très bien. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ? Précisément, il y a une espèce de saut, de mouvement, une espèce d'effet de cliquet. Le système de l'indignation dont j'ai parlé ici, et dont je parle dans le livre, c'est ce système, je vous dis, des indignations qui se chassent les unes les autres, et des indignations qui ensuite viennent effectivement nous carapassonner, viennent à notre appui, viennent nous aider, d'une certaine manière, pour tenter de définir ce que nous sommes. Bon. Mais quand vous regardez un militant, quand vous regardez même ceux qui se disaient indignés, hein, les indignés en Espagne, mais un militant politique, un militant écologique, un militant du climat, etc., qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils sont très peu indignés, ces gens-là. Ils sont très, très peu indignés. Et puis surtout, la série des indignations où une indignation chasse l'autre est une série qui, à un moment donné, a été interrompue. Il y a eu un choix, même peut-être plus qu'un choix, une élection. Et une élection qui, ensuite, se traduit par quoi ? Elle se traduit par du boulot de militant, du boulot de terrain. Elle se traduit par même une forme de presque d'effondrement affectif. Je veux dire, l'espèce de truc comme ça qui vous saisit, machin... C'est quelque chose qui a une furieuse tendance à disparaître. Hein. Un type comme Che Guevara, par exemple, pour utiliser un exemple scolaire, c'est quelqu'un dont on voit par les textes, s'il faut croire les biographies, etc., mais qu'effectivement, c'était vraiment quelqu'un qui calculait. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans une forme comme ça hyper expressive. C'est quelqu'un qui s'était subordonné à quelque chose qui était de l'ordre d'une cause. C'est-à-dire que l'indignation n'était pas quelque chose qui participait de lui, c'était lui qui participait de ce pourquoi il avait décidé, de ce à quoi il avait décidé de consacrer sa vie. C'est plus la même chose, ça. Il y a une espèce d'autre scène, autre chose qui se passe. Mais à ce moment-là, évidemment, on quitte complètement le débat sur la question de la raison, sur la question de la rationalité, telle que je l'ai posée ici. C'est une espèce d'autre ligne, qui est, disons, la ligne de la révolte. Mais déjà même autre chose que la révolte et que l'indignation, la colère, déjà, par exemple. Ce qui me frappe avec la colère comme émotion, c'est que c'est une... Au contraire de l'indignation, donc, qui est centripète, hein, elle nous ramène toujours à nous-mêmes. La colère est quelque chose qui a tendance à faire exploser, à faire exploser aussi une limite, un point. Il y a un verrou qui saute, quoi. Il y a un boulon qui pète. Il y a une espèce d'ouverture, il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui peut se mettre à filer, à traverser. Donc, effectivement, avec la colère, on est dans une émotion, si vous voulez, qui est une émotion, qui est une tendance une tendance centrifuge et une tendance qui, elle, peut s'argumenter aussi, mais s'argumente moins, ou s'argumente différemment. Et nous indigne une ligne, qui est une ligne dont on n'est pas très sûr. Voilà, la colère, on ne sait pas très bien où nous emmène. Hein, on ne sait pas très bien ce qu'elle va nous faire faire, la colère. On ne sait pas très bien ce dont elle peut nous rendre capable. Voilà. Et là, il y a aussi, il y a des nuances comme ça qu'on peut faire, qui sont des nuances que moi je trouve intéressantes, mais dont l'essentiel pour moi, pour ce qui me préoccupe, effectivement, cette différence qu'il peut y avoir entre le renforcement de cette catégorie. Je dois avouer que j'aime pas non plus, comme j'aime pas trop la catégorie de raison, j'aime pas la catégorie d'être. Il faut bien que je vous l'avoue. Donc celle qui nous ramène effectivement à notre être, l'être qui est au fond la cible du développement personnel. Hein, réconciliez-vous avec vous-même, soyez vous-même, retrouvez-vous vous-même. Etc. C'est-à-dire, en gros, allez bosser, rapporter du pognon, redevenez fonctionnel. Hein, je veux dire, l'être, faut pas déconner. L'être, c'est vraiment la catégorie du flicage dans toute sa splendeur. Et donc, on vous dit d'être vous-même pour être sûr, hein, qu'il s'agit surtout de pas bouger. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est un truc qui est pas dans mon livre que j'ai publié, qui s'appelait L'âge de l'anesthésie, dans lequel je m'intéressais à la chimie si vous voulez, qui entoure nos vies aussi. On est indigné en permanence, on passe aussi nos vies à prendre des pilules, je veux dire, tous autant qu'on est, hein, de différents types, de différents genres, en fonction de voilà, notre santé, notre genre, notre âge, notre machin, mais enfin, en réalité, voilà, on y va. Et j'avais découvert, en faisant les recherches sur ce livre, j'avais découvert un truc assez hallucinant qui remontait à la manière dont a été créée, inventée véritablement, la catégorie de psychose maniaco-dépressive. On est en 1899, et il y a un psychiatre d'une importance capitale dans l'histoire de la psychiatrie, c'est quelqu'un dont le nom n'est pas aussi célèbre que Freud, ou etc., mais quelqu'un qui est véritablement peut-être plus important que Freud dans la mesure où son impact sur nos existences quotidiennes a été beaucoup plus important. Ce type s'appelle Émile Kraepelin. C'est un psychiatre allemand, fin du 19e siècle. C'est le grand, 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 la grande figure de la psychiatrie expérimentale, c'est-à-dire le moment où la psychiatrie se détache de la psychologie philosophique, si vous voulez, pour entrer dans le domaine de la science, en tout cas de la science prétendue, de la science désirée. Et dans son Lehrbuch für Psychiatrie, dans son manuel de psychiatrie, il invente en 1899 donc la catégorie de psychose maniaco-dépressive. Il était aussi directeur d'hôpital et il dit, voilà, les symptômes qu'on peut associer, qui forment syndrome, qui permettent de diagnostiquer effectivement une psychose maniaco-dépressive avec effectivement ces cycles, ces phases, ces moments maniaques, ces moments dépressifs, etc., etc. Et il parle, il décrit tout cela de manière très très froide dans son manuel, en faisant un minimum de théorie, mais il laisse filer un certain nombre de mots qui sont des mots étranges. Pour parler du moment maniaque de la psychose maniaco-dépressive, il utilise le mot allemand, il dit un mot un peu bizarre, le mot Erscheinen. Erscheinen. Sein, c'est être. Er, c'est l'errance, la divagation. L'Erscheinen, c'est le moment où l'être divague. Hein, c'est-à-dire l'être erre, l'être quitte le sentier qui est le sentier de la marche assurée, si vous voulez, pour aller se perdre dans des zones où il n'aurait pas vocation à se perdre. Le maniaque est celui qui perd son être pour aller on ne sait pas où. Voilà. Et ça, c'est pas terrible, surtout quand on est directeur d'hôpital. Hein. Le mec qui perd son être comme ça, en général, il fait du bruit, il casse des trucs, il peut devenir dangereux, etc. Donc, puisque Kraepelin croyait que, très fermement, il était persuadé qu'on ne peut pas guérir une personne qui souffre d'une maladie mentale, on peut justement, travailler sur les symptômes. C'est ça, la science. Hein. On peut travailler sur les symptômes. Bon. Et pour travailler sur les symptômes, qu'est-ce qu'on utilisait à l'époque et qu'on a utilisé jusque dans les années 1950 du 20e siècle, enfin, les années 50 du 20e siècle, c'est, entre autres, hein, c'était la substance qui avait le plus de succès, c'est une substance qui s'appelait hydrate de chloral. Voilà, qui est un dérivé direct, hein, c'est pas des tout premiers anesthésiques. C'était un anesthésique. Voilà. L'anesthésique est cette chose qui ensuite vous fait, si vous voulez, vous permet comme ça de quitter cette errance et de retrouver les limites de votre être, hein, de vous retrouver avec vous-même. Un petit coup d'anesthésique et là votre être il est bien. Le calme revient dans l'hôpital, hein, de telle sorte qu'évidemment la conclusion s'imposait d'elle-même. Le bon maniaco-dépressif. Pour Kraepelin, c'est un dépressif. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et pour beaucoup de managers, si vous voulez, de la personnalité dans nos sociétés contemporaines, c'est encore le cas. Un bon maniaco-dépressif, c'est un dépressif, parce qu'au moins, le dépressif, il est, voilà, on lui donne un petit machin pour éviter qu'il fasse des conneries, pour qu'il puisse se lever le matin, pour qu'il puisse aller bosser, mais il continue à souffrir. Hein. Une personne qui prend un antidépresseur, s'il y en a parmi vous qui en utilisez, vous savez que vous continuez à souffrir, mais simplement, vous pouvez faire des choses. Simplement, ce que vous pouvez faire, très très souvent, c'est ce qu'on vous dit de faire. Et donc, il y a là quelque chose sur la catégorie d'être qui est quelque chose d'assez puissant. Et pour moi, le lien, il y a un lien direct entre les deux livres, vraiment, parce que cette question de l'anesthésie, elle peut aussi se faire pour des très bonnes raisons. Il y a de très bonnes raisons, d'une certaine manière, à vouloir se concentrer sur notre être. Et qu'en effet, de ce point de vue-là, l'indignation, en tant qu'elle s'appuie sur la raison, peut contribuer, c'est peut-être l'endroit où je serai critique à son égard, effectivement, à cette modalité anesthésique de gestion du corps social basée sur, au fond, une ontologie puissante. Quoi. Il ne faut jamais sous-estimer la métaphysique, il ne faut jamais sous-estimer l'ontologie. Ce n'est pas juste des divertissements de philosophes ou d'intello, c'est des trucs qui, véritablement, viennent ensuite irriguer, structurer la manière dont s'établissent les relations dans le monde et la manière ensuite dont les places de chacun se trouvent définies, parce que ce sont des places qui sont définies par des mots, et ce sont des places qui sont définies par des concepts, et là aussi par des arguments, par des faits, par des théories, etc. etc. Donc voilà un petit peu le paysage de toute cette affaire.
Merci beaucoup Laurent de Sutter.
Voilà, merci à vous.